C'est Jazz Libre, c'est Radio Libertaire et c'est 89.4 et DAB+, avec Yves au micro en direct des studios. Et oui, vous avez de temps en temps la version originale d'Equinox, celle par le quartet de Coltrane. Franck à la technique, réalisation technique aux manettes. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Alors, une première partie d'émission, nous allons réécouter un certain nombre de choses dont je n'avais pas pu vous passer l'intégralité de ce que je voulais la dernière fois. Je n'ai pas fini. N'oubliez pas de télécharger la souscription. Nous avons besoin de votre soutien. Vous avez le programme des émissions sur le site de la radio, radiolibertaire.net. Avec l'agenda, les émissions sont réécoutables en podcast, en balado diffusion ou téléchargement pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Voilà, quoi vous dire, donc oui, évidemment, il faut également consulter ma page Yves Jazz Lib et GMC+, puisque comme vous le savez maintenant, je fais les deux. Et de plus, vous avez la possibilité de me donner, de m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr quand ça marche, ce qui est moins sûr, pour me demander des informations, des playlists ou ce genre de choses. Voilà. Alors, ce soir, nous allons recevoir tout à l'heure le pianiste Romain Villet. Nous parlerons bien sûr de son spectacle My Heart Belongs to Oscar, qui est évidemment un jeu de mots en clin d'œil à la chanson My Heart Belongs to Daddy, immortalisée par Marilyn Monroe, mais qui avait été chantée bien avant. Bref, nous en aurons l'occasion d'en reparler. Et puis, puisque ce pianiste est un fanatique absolu d'Oscar Peterson, et que en fait nous allons bientôt commémorer le centenaire de sa naissance, donc ça tombe très bien. Voilà. Alors nous allons commencer par un disque, par un morceau. Alors tout à fait étonnant. C'est un thème que vous allez évidemment que vous connaissez, mais qui est le thème All Blues de Miles Davis, l'album de 1959, mais qui est là cette fois-ci interprété par un groupe de pop des années fin 60, début 70, qui s'appelle Brian Auger, parce qu'il est toujours vivant, Brian Auger et The Trinity avec Julie Driscoll, la chanteuse. Alors c'est un album qui a été enregistré en 1969, mais qui en fait est apparu bien plus tard, vraiment beaucoup plus tard. C'était un double album enregistré avec un certain nombre de différentes sessions, et donc c'est tout à fait surprenant et intéressant de voir que Brian Auger a toujours eu un pied dans le jazz, et ça depuis fort longtemps, à tel point qu'une fois j'avais acheté un disque de Mike Oldtimer et les notes de pochette étaient de Brian Auger, pour dire que voilà. Et donc de temps en temps, malgré le côté pop musique de ce groupe, de temps en temps, comme là, ils ont donné une version de ce All Blues avec des paroles. Alors les paroles, je ne me souviens plus de qui elles étaient, mais peu importe. Alors, je rappelle que Brian Auger et The Trinity, Brian Auger joue de l'orgue B3, du piano électrique, et il chantait aussi. Julie Driscoll, surnommée Jules, elle, c'est une chanteuse et elle jouait de la guitare. Et il y avait, accompagnant tout ce petit monde, David Ambrose à la basse et à la basse électrique qui jouait également de la guitare, et Clive Faker à la batterie. Voilà. Et donc cet album est sorti relativement récemment, Il est resté dans les tiroirs, on ne sait pas trop pourquoi. Et il y a beaucoup de titres très, très connus, dont notamment « Light My Fire » des Doors, également un autre thème de Richie Evans. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes, mais voilà, on va commencer par ce thème d'All Blues. Et oui, ça y est, j'ai retrouvé, les paroles sont de Oscar Brown. Voilà, c'est parti.
Summer day that's fair, a prayer that's shade of blue is there.
Jazz Lib, Radio Libertaire 89.4, en direct des studios. Eh bien, moi je trouve que pour un groupe de rock des années 60, je trouve que cette version ne démérite pas. Alors on peut noter plusieurs choses. La première, c'est que le jeu de piano de Brian Auger est très, enfin sur ce thème-là, est très très inspiré de Ray Charles, je trouve. J'en parle avec d'autant de facilité que moi aussi j'ai été inspiré par Ray Charles dans mes tout premiers moments. Donc voilà, c'est un grand initiateur de blues notamment. Et puis la chanteuse Julie Driscoll a parfois des accents de la chanteuse Grace Slick de Jefferson Airplane. Il y a quelque chose comme ça. Franck me disait côté Janis Joplin en plus soft, mais je trouve que ça ressemble plus à Grace Slick. Voilà. Je vous recommande cet album qui est un petit peu transgenre, enfin en tout cas à la frontière de plusieurs. Mais Brian Auger a toujours été très très admiratif des jazzmen. Enfin bon, on connaît aussi la passion de Charlie Watts, etc. ou d'autres comme John Entwistle aussi. Enfin bon. Voilà, donc nous allons retourner aux musiciens dont je n'avais pas pu vous passer le thème la dernière fois pour cause de temps. Il s'agit du flûtiste Itai Criss, qui est accompagné par Adam Birnbaum au piano, Luke Selick à la basse et Anthony Pinciotti à la batterie, je crois, qui a disparu entre l'enregistrement et la sortie de l'album, qui avait aussi comme invité Benny Benac III à la trompette, qui est également chanteur. Je vous en avais parlé, je vous l'avais présenté il y a plusieurs années, je crois. Et Yotam Silberstein à la guitare, qui avait également fait un album. Voilà, je rappelle que l'album est produit par Simon Belelti, pardon. Excusez-moi, qui est lui-même guitariste et qui joue aussi de temps en temps. Voilà, donc nous allons écouter le thème No Smoking. C'est parti. Thank you. Vous êtes sur Jazz Lib, c'est Radio Libertaire et c'est en direct des studios. Alors, maintenant nous allons... pareil, je vous avais passé il y a un petit moment déjà des rééditions, pas des rééditions, pardon, non, pouf, des inédits absolument sublimes d'Art Pepper, de Mingus et puis de Bill. Alors là, vraiment, Zeffelmann trouve toujours des trucs absolument incroyables. Et on n'avait pas eu le temps d'écouter Mingus parce que j'ai un amour assez particulier pour Mingus. D'abord parce que je l'ai vu beaucoup dans pas mal de formations, et celle-ci était la dernière formation en quintette avant qu'il tombe malade et qu'il fasse son dernier disque qui s'appelait Me, Myself and I. Et il était accompagné avec Ricky Ford au ténor, Jacques Walrath, toujours lui, à la trompette, Bob Nelums, Robert Nelums au piano, et Danny Richmond, évidemment, le fidèle gardien du tempo, à la batterie. Et donc, il s'agissait d'un concert en Argentine, à Buenos Aires, pour être précis, en 1977. Et j'ai vu la même formation en France, à Château-Vallon, au mois de juillet, donc un mois après. C'était très, très particulier. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce propos. Mingus était déjà bien handicapé, bien malade. Il avait une maladie qui l'a emporté assez rapidement. Il pouvait à peine marcher. Il avait une canne. Et à un moment donné, il était dans le creux. Il était adossé au piano, en fait. Et puis, à un moment donné, Jacques Walrath fait un stop chorus. Alors, un stop chorus, c'est... le soliste joue sans l'orchestre, et puis l'orchestre reprend derrière. Et au bout d'un moment, Ricky Ford s'approche pour jouer, puisque ça, on compte hein, le nombre de mesures, et puis on reprend au moment où il faut. Et là, à ce moment-là, sans que Mingus, qui avait le dos tourné, en fait, le voit, a pris sa canne et a fait comme le garde-barrière, c'est-à-dire qu'il l'a empêché de passer. Donc Ricky Ford a été comme ça interrompu dans sa course pour aller jouer. Et en fait, c'était vraiment émouvant parce que Mingus avait estimé à ce moment-là que Jacques Walrath était en train de faire un truc qui sortait un peu de l'ordinaire, ce qui était pas faux d'ailleurs. Et puis quand il a estimé que le moment était bon et qu'il allait pouvoir revenir, il a levé la barrière et puis l'orchestre a repris. Voilà, c'était vraiment le genre de choses qui sont difficilement comment dire. On peut le raconter, mais le vivre, c'est tout à fait autre chose. Et donc là, nous allons écouter un thème qu'il avait écrit dans ce magnifique double album Changes 1 and Changes 2. À l'époque, c'était avec George Adams et Don Poulen, duo absolument fantastique, fabuleux. Et donc, le thème s'appelle Duke Ellington, Sound of Love. Et évidemment, on sait la passion que Mingus avait pour Duke Ellington, dont notamment le fameux disque qu'il a enregistré en trio, Duke, lui, et me souviens plus qui était à la batterie, j'ai un trou. Bon, ça me reviendra. Voilà, donc c'est parti. We'll be right back. Jazzlib, Radio Libertaire 89.4. Donc, je ne saurais vous recommander évidemment ce double album. Pour aussi une raison que j'avais signalée la dernière fois, c'est qu'il y a deux pièces en piano solo en improvisation de Mingus lui-même, qui était un pianiste, hein, puisqu'il avait fait d'ailleurs un disque où il était pianiste. Toujours avec une belle présentation par Zeffelmann, il y a toujours beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de textes, enfin voilà. Donc, que dire de plus, si ce n'est que Mingus est un grand compositeur, grand chef d'orchestre, et qu'il est un petit peu oublié, hélas. Mais bon, voilà, grâce à moi et Zeffelmann, vous avez de nouveau accès à ces inédits, puisque en fait, ça n'avait jamais été sorti. Alors, nous allons maintenant revenir sur le disque d'Emmanuel Bex, qui était notre invité la dernière fois. Alors, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de monde dans cet album. Hein. Il y a Arnaud Dolmen, Michel Alibaud, Emmanuel Bex, évidemment, Antonin Fresson, Fidèle Fourneron, Tristan Bex, la batterie, percussion, Phil Reptile, la grande soufflerie, la fanfare, enfin bon voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc nous allons commencer maintenant par un titre que je ne sais même plus lequel c'est. Oui, alors ça s'appelle La Biguine. Alors pour la petite histoire, Emmanuel Bex disait qu'un jour, enfin un soir plutôt, il avait entendu Eddie le jouer en solo et il lui avait demandé ce que c'était et il lui a répondu qu'il ne se souvenait pas du tout du titre et que c'était son père qui l'avait composé. Donc voilà, il a appelé ça La Biguine. C'est parti. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors voilà, hein, c'est de l'Orgamont. Et on en parlait avec, avec Emmanuel la dernière fois, où il disait qu'en fait, il trouvait pas que c'était l'instrument le plus... celui qui lui plaisait le mieux. Enfin, je trouvais ça assez rigolo. Donc, mais moi, j'aime beaucoup cet album. Bon, alors, pour plein de raisons. D'abord, parce que j'ai toujours beaucoup aimé Eddie Lewis, parce qu'il avait une manière de jouer très différente des organistes américains. Hein, on l'avait évoqué. Que je suis moi-même totalement omnubilé par l'orgue, au point que j'en ai quand même acheté un aussi, hein, le même. Et que voilà, c'était une sorte de fantasme, et que j'ai toujours beaucoup aimé les organistes, voilà. Et donc Emmanuel Bex, qui est également un style complètement à lui. Je pense que c'était plutôt pas mal de passer par la case hommage à Eddie. Et donc on va écouter un autre thème qui s'appelle Command DH. Il est accompagné pour l'occasion avec Antonin Fresson à la guitare, Arnaud Dolmen à la batterie, Emmanuel donc à l'orgue, Michel Alibaud à la basse électrique, Fidèle Fourneron au trombone, Tristan Bex percussion, Phil Reptile loops et electronics. Loops, hein, c'est tous les machins électroniques, les trucs, les bidouilles, mais j'y connais rien, mais bon, voilà. Et la grande soufflerie et la fanfare du carreau. Alors là, ils sont beaucoup. Si j'ai le temps, je vous le dirai, ou je ferai une copie et je mettrai sur ma page Facebook quand je mettrai le podcast et les images des albums. Voilà, c'est parti. We'll be right back. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Donc, c'était la fanfare du carreau avec Emmanuel Bex et ses acolytes. Je vous recommande vraiment l'album. Je trouve que c'est intéressant, cet hommage à Eddie Lewis de la part d'Emmanuel. Et puis bon, voilà, hein, c'est très personnel, vu que je joue de l'orgue aussi, donc je vais pas m'énerver. Donc, comme promis, nous avons un tout petit peu en avance, notre invité Romain Villet, le pianiste. Nous allons parler de beaucoup de choses, parce que je sais qu'il était impatient de venir à l'émission, pour nous parler de son spectacle, et puis pour nous parler d'Oscar Peterson, puisqu'il est tombé dans la marmite, pas quand il était tout petit, mais justement, il va nous expliquer ça de prendre le temps. Et puis, nous allons aussi parler un petit peu de son spectacle, et je vais même d'ailleurs, je commencerai un petit peu par ça, mais d'abord, merci Romain d'être venu dans mon émission pour...
Merci pour l'invitation, et puis le enfin se justifie d'autant plus que je suis effectivement impatient, comme je le suis toujours. D'ailleurs, je m'étonne d'une impatience aussi persistante, parce que ça fait maintenant un petit moment que je parle de Peterson, on va effectivement rentrer dans le détail de savoir comment je l'ai rencontré, j'en parle toujours avec la même gourmandise, la même délectation, et donc je suis toujours ravi d'abord de l'invitation, et effectivement j'ai toujours envie de dire enfin quand on me propose de parler de Peterson, donc le enfin était très bienvenu.
Alors Romain, il faut que je te dise quelque chose. D'abord, j'ai toujours tendance à tutoyer mes amis musiciens, parce que comme je suis moi-même musicien, et puis que Franck a la technique et le saxophoniste qui me supporte depuis de nombreuses années, mes conneries, donc j'ai toujours tendance à tutoyer entre collègues, on va dire. Et j'espère que tu m'en voudras pas pour cette familiarité.
Alors, on n'a qu'à dire que le « vous » était une marque collective, mais je te tutoie très volontiers, il n'y a pas de problème.
Alors, la première chose, c'est que on sait, alors on va dire aussi pour les auditeurs, parce que c'est très très rigolo, mais j'ai plein d'anecdotes comme ça, mais on s'est rencontrés par internet, en fait, ou grâce à mon émission d'une certaine manière, je pense, et tu as insisté longtemps pour que je vienne au spectacle, et puis bon, comme tu le sais, on est toujours très pris, enfin bon voilà, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, il faut quand même que j'aille écouter ce pianiste, écouter ce spectacle, et puis voilà. Et en fait, je suis arrivé de manière extrêmement vierge, sans a priori, sans rien du tout, et même sans avoir pris la moindre information. Enfin, j'étais une sorte de grosse fatigue, quoi. Enfin, je suis arrivé comme ça, et puis, en voyant le spectacle, j'ai mis 10 minutes, un quart d'heure, avant de comprendre que tu étais non-voyant. Et j'ai trouvé ça très impressionnant, parce que, d'abord, la scène où tu étais, c'est le théâtre de l'île Saint-Louis, une petite scène, avec quand même un grand piano, et donc ça peut être assez facilement casse-gueule, et t'étais en trio, donc avec un contrebassiste et un batteur, que tu malmènes d'ailleurs, on va en parler.
Je les malmène très, très gentiment.
Oui, non, mais ça
fait partie de la dramaturgie élémentaire.
Je plaisante.
Et qui, en plus, comme ça, fait mine de me faire passer pour moins égotique que je ne le suis, parce qu'il y a eu plusieurs versions de ce spectacle. Il y en a une qui était véritablement un monologue plus trio, où vraiment je racontais ma rencontre de Peterson et tout l'enjeu avec les différentes et les dernières versions de ce spectacle, ça a été justement de me débrouiller pour faire que les musiciens qui au départ n'étaient avec moi que pour jouer et pour rendre hommage à Peterson par la musique soient aussi avec moi sur scène pour qu'on puisse se malmener les uns et les autres, parce que par ailleurs eux me le rendent assez bien, ils protestent un certain nombre de bêtises que je peux raconter, un petit jeu qui s'est installé entre nous, et je dois dire qu'on s'amuse beaucoup à faire ce spectacle.
Oui, c'est très rigolo. Alors, En plus, y a cet aspect que j'ai trouvé assez... au bout d'un moment, j'ai dit, ah, mais c'est vrai. Et en plus, tu portes pas de lunettes. Enfin, y a pas du tout les archétypes de l'aveugle, on va dire.
Non, alors là-dessus, je peux même te raconter une anecdote qui, moi, m'a amusé. Je me cache pas du tout. Alors, ma cécité est absolument pas au cœur du spectacle. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, je ne la cache pas du tout, puisque au bout de 3 ou 4 minutes de spectacle, j'interpelle mon public en lui disant, c'est pas parce qu'un aveugle vous parle d'artiste noir que ça doit l'exonérer du devoir d'être clair. Donc j'assume complètement ce côté-là. Il n'empêche qu'il nous est arrivé de faire une représentation dans un très beau club d'ailleurs à Lons-le-Saunier, au Darius Club, où sont passés de très grandes pointures. Donc on était très honorés d'être invités là-bas. On a fait le spectacle là-bas et puis on a reçu un accueil extrêmement chaleureux, parce que ça fait partie des anecdotes un peu rigolotes. On arrive dans ces endroits alors je suis plus parisien maintenant, mais pour l'ancien parisien que je suis, on a toujours l'impression de s'aventurer en terre un peu hostile là, quand on va au fin fond du 39. Et puis on arrive dans une salle qui est vide et on tombe sur des gens qui visiblement sont tous des connaisseurs du jazz, qui connaissent ce dont on leur parle, qui sont très enthousiastes. Et parmi les nombreuses personnes qui viennent me voir à la fin du spectacle pour me faire leurs commentaires, leurs remarques, me dire ce qu'ils en ont pensé, etc. Il y a dans le public quelqu'un qui est venu et qui me dit, il y a une seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi vous faites semblant d'être aveugle. J'étais assez content de mon coup. Je me suis dit, c'est bien, c'est que voilà, c'est que donc visiblement t'es peut-être pas le seul que la chose a un peu surprise. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on a travaillé aussi avec le metteur en scène, essayer d'avoir une certaine fluidité dans les déplacements sur scène, essayer de faire que c'est évidemment quelque chose qui se travaille là encore, que l'adresse au public se fasse avec malgré tout un regard qui est adressé à droite à gauche, pas toujours au même, enfin voilà, qu'on essaye d'avoir une présence face au public où, bien que je ne cache à aucun moment le fait que je sois aveugle, voilà, il y a aussi un certain nombre de codes à respecter quand on est aveugle et qu'on monte sur scène. On se donne à voir, et donc on se donne à voir. Moi, je répète très souvent que c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on doit pas s'habiller en noir quand on va aux enterrements. C'est à peu près la même chose quand on est aveugle et qu'on monte sur scène. Il y a un jeu visuel, on se donne à voir, et donc il faut respecter un certain nombre de conventions visuelles qui sont les conventions de la scène, et notamment celle-là de pas regarder toujours au même endroit, etc. Et donc pour moi, ça a sous-entendu un certain apprentissage, mais avec plaisir. Enfin, moi j'aime beaucoup être sur scène, j'aimais beaucoup être sur scène en trio, tout simplement parce que j'ai fait ça beaucoup évidemment avant ce spectacle, mais j'aime aussi beaucoup faire ça avec un texte à donner, et donc avec des déplacements et avec des enjeux qui sont dans une certaine mesure celui d'un comédien aussi.
Mais voilà, moi j'étais assez épaté, voilà, pour tout dire, mais dans le sens positif aussi du terme, hein, pas du tout, voilà. Alors deuxième aussi remarque, ce spectacle, on va y revenir évidemment, s'adresse aussi bien aux novices qu'aux blanchi sous le harnais dont je fais partie, parce que d'ailleurs c'est ce que j'ai dit dans mon compte rendu en disant que voilà, moi j'ai pas du tout c'est pas que j'ai pas appris parce que bon, depuis le temps, mais j'ai trouvé ça rafraîchissant, amusant, et ça permet aussi de... Et puis je m'y suis retrouvé aussi, parce qu'il y a toujours un moment donné où il y a un élément déclencheur qui nous fait aller vers cette musique, et qui est une sorte de bascule. Et je trouve qu'on... Pour tous ceux qui sont rentrés dans le jazz, il y a un moment de... Enfin, sauf, je sais pas si ceux qui sont nés aux États-Unis qui ont toujours vécu là-dedans, mais il y a toujours une bascule qui fait qu'on se souvient toujours de ce moment, et je trouvais ça Voilà, on peut donc s'approprier complètement ce spectacle et il est recommandé pour tout le monde, en fin de compte.
Bah, moi, c'était effectivement l'enjeu. D'abord, il y avait avec ce spectacle la volonté évidente de rendre hommage à Peterson. Alors, je le dis d'ailleurs à la fin du spectacle, j'en suis pas évidemment resté à Peterson, j'ai écouté beaucoup d'autres musiques non plus, mais il y a un émerveillement premier dont j'avais envie de rendre compte, parce que, comme tu viens de le dire, ça a été une brèche qui s'est ouverte, enfin ça a ouvert une voie pour moi, et donc je garde pour Peterson cette espèce de passion qu'on peut avoir pour ses premières amours, et y compris d'ailleurs aujourd'hui. Je sais que c'est amusant d'ailleurs, parce que la plupart des pianistes de jazz à un moment sont arrivés au jazz soit par Peterson, soit par Bill Evans. Voilà, généralement c'est comme ça que ça se passe, ça s'est passé comme ça pour moi. Il y en a un certain nombre qui, une fois qu'ils font leur chemin, regarde Peterson un peu à la manière de Salieri de Amadeus, en disant oui, trop de notes, une moue un peu boudeuse, il a joué pareil pendant 50 ans, tout ça. Moi, je trouve que le seul reproche qu'on peut faire à Peterson, c'est de végéter dans l'excellence. Et donc, oui, bah, effectivement, j'entends très bien ces critiques-là. C'est évident que la carrière de Peterson n'est pas celle d'un pionnier multirécidiviste, comme peut l'être un Miles Davis, comme peuvent l'être un certain nombre de musiciens qui ont passé leur temps tout au long de leur carrière à se réinventer, etc. Peut-être qu'on écoutera au cours de l'émission le premier blues new-yorkais de Peterson à Carnegie Hall en 49. C'est très frappant quand on écoute ça de se dire que Peterson avait 24 ans et que malgré tout, la plupart des éléments de son jeu sont là. La virtuosité est là. Certains de ce qu'on pourrait appeler ces tics de jouage sont déjà présents à ce moment-là. Il y a notamment une utilisation de la main gauche qui lui est très singulière, etc. En 49, c'est là. Et c'est là pour les 50 ans qui vont suivre. Donc, de ce point de vue-là, ça, je le vois très bien. Il n'empêche que moi, je reste enthousiasmé par Peterson, et notamment pour cette élégance, pour cette joie, enfin voilà, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Donc il y avait dans ce spectacle d'abord la volonté de rendre hommage à ce premier embrasement, à cette étincelle qui a été le début d'un feu qui brûle en moi depuis un peu plus de 25 ans maintenant, et puis il y avait aussi, comme tu le dis, la volonté de décrire quelque chose qui ressemblait à une initiation. Et d'ailleurs c'est amusant parce que ce que tu racontes là me fait penser à des réflexions que j'ai pu avoir de la part de certains spectateurs qui sont venus là, soit par hasard, soit parce que je les connaissais, soit, mais qui étaient des gens qui n'étaient pas du tout portés vers le jazz et qui me disent « mais finalement le jazz, j'en ai rien à faire, mais malgré tout, on retrouve ce moment-là qui est quelque chose qui a une portée peut-être plus générale dans ce qu'est la naissance d'une vocation artistique. Il y a un moment où il y a une initiation qui se fait parce qu'on rencontre quelque chose au point que, quel que soit l'endroit où on en est dans sa vie à ce moment-là, on se dit, pour moi, il va se passer quelque chose de ce côté-là. Et ça, c'est une espèce de révélation. Alors, on peut la rendre encore plus romanesque qu'elle est en disant que ça se passe du jour au lendemain. Moi, c'est un peu ce que je fais dans le spectacle pour les besoins de la cause et pour les besoins de la dramaturgie. Évidemment, les choses sont pas tout à fait aussi simples, mais malgré tout, quand j'ai entendu Peterson, le choc a été suffisamment violent pour que j'arrête à peu près tout dans les deux années qui viennent, et que celui qui avait été un pianiste classique besogneux, passé par les conservatoires municipaux de la ville de Paris, se dise vraisemblablement, il va falloir que je passe un certain temps de ma vie à m'intéresser véritablement à ce qui se passe dans cette musique, et avec l'intention, sans savoir très bien où ça allait me mener d'ailleurs, et avec un certain nombre de désillusions, et puis avec tout ce qu'on rencontre quand on se jette dans ce genre de parcours, mais en tout cas avec l'idée de se dire que là, commencer quelque chose pour moi. Et ça, c'est quelque chose dans lequel les gens, y compris qui sont pas fans de jazz, se retrouvent très bien dans le spectacle, parce que je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait transposable. Enfin, pour les gens qui écrivent, on a comme ça des révélations en lisant un livre. Ça peut être la même chose pour la peinture, pour ce qu'on veut, quoi. On est face à quelque chose qui très profondément nous bouleverse et nous nous émeut au sens où on dit que ça nous met en mouvement, en fait.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le passage d'une œuvre qui nous traverse au bout d'un moment est vraiment un processus initiatique irréversible. Et on voit le chemin parcouru lorsqu'on se retourne. On se dit, ah, mais oui, j'en étais là, et c'est tout à fait insidieux. Juste avant d'écouter... le titre qui va en fait donner comment dire le titre de ton spectacle, c'est My Heart Belongs to Oscar. On va écouter My Heart Belongs to Daddy dans un instant. Mais moi j'ai noté un certain, puisque j'ai reçu, enfin j'ai lu le livre qui est le livre du spectacle, j'imagine pratiquement dans sa totalité.
Alors, un peu plus que ça, parce que il y a, pour des raisons qui tiennent à ce qu'est la littérature et à ce qu'est le théâtre, en fait, on peut dire beaucoup de choses beaucoup plus vite quand on est face au public, parce qu'il y a des fois où, en une expression, on fait comprendre des choses qu'on a besoin de développer avec un paragraphe. Donc, en fait, dans le livre My Heart Belongs to Oscar, qui a été publié aux éditions Le Dilettante, on a une version du spectacle qui est très proche de ce qui se passe dans le spectacle, mais avec une version qui est quand même étoffée, et puis ne serait-ce que parce que aussi le principe du spectacle, je crois qu'on l'a pas dit jusqu'à présent, c'est une alternance de texte et de musique. Enfin, on a un peu parlé du trio, mais donc les moments où je joue avec mon trio dans le spectacle sont des moments où généralement je parle des morceaux qu'on joue, où je fais des digressions. Donc voilà, c'est une version étoffée, mais ça reste une version qui est assez proche de ce qu'on donne à voir quand on est sur scène pour le spectacle.
Alors moi, en plus, j'aime bien parce qu'il y a plein de jeux de mots pourris. Moi, je suis vraiment adepte de... Enfin, je suis vraiment client à mort sur ce genre de choses. C'est un humour qui me fait bien marrer. Alors là, par contre, j'ai noté quelque chose qui m'a réjoui, mais vraiment profondément réjoui. Et je vais lire le passage, c'est page 44. C'est à propos de l'engagement politique, entre guillemets. Et voilà. Et tu dis, son destin, c'est de porter à bout de doigt son jeu unique, inégalable et par là exemplaire. Affirmer que le jazz n'est qu'une musique de noir conçue par et pour les noirs, ça le rend certes plus politique, plus revendicatif, mais aussi et surtout plus folklorique, plus sectaire, plus communautariste, bref, moins universel. La musique a le double avantage d'être invisible et muette, c'est parce qu'elle existe loin des images et des mots qu'elle nous repose si bien les clinquants m'as-tu vu et les grandes gueules creuses. Pourquoi donc vouloir à tout prix lui donner une couleur et lui prêter des discours? Le vrai, le seul engagement de Peterson, il est concret, c'est le concert. Voilà, ça me réjouit parce que on vit une époque qui, moi, m'effraie, enfin, me casse les pieds avec tout ça. Et jusqu'à présent, le jazz n'a pas été trop encore endommagé par un certain esprit que je ne nommerai pas. Et moi, je trouve ça très bien sûr. Enfin, je trouve ça très bien. Je me reconnais complètement dans cette histoire. Et t'as parfaitement résumé ma pensée.
Eh bien, merci. Moi, c'est effectivement quelque chose qui m'a intéressé dans le parcours de Peterson. Alors, Peterson a eu quelques engagements, etc. Mais vraiment, il était assez intimement convaincu de ça. Alors, s'il a eu un petit engagement à la fin de sa vie, en considérant qu'on voyait pas suffisamment de noirs dans les publicités à la télé. Donc, dans les années 80, il a parlé un peu de ça, etc. Mais, je le dis aussi dans le spectacle, Peterson a beau être un contemporain des Black Panthers, etc. Il s'est maintenu assez loin du combat politique tel qu'on se le représente avec ses figures iconiques, etc. Et non pas du tout parce que la chose ne l'intéressait pas. D'abord parce que Peterson n'est pas bagarreur. Peterson déborde d'amour. On aura peut-être l'occasion d'en revenir. Il y a d'ailleurs dans le texte de présentation qui est envoyé aux journalistes qui reçoivent le livre, qui est un texte qui a été écrit par François Angelier. François Angelier définit Peterson comme un Bouddha himalayen. J'ai plus la formule exacte, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Il y a effectivement une espèce de sourire de bienveillance. Ça transparaît d'ailleurs dans toutes les interviews. Elles sont maintenant assez nombreuses, qu'on peut retrouver sur YouTube, etc. Peterson est quelqu'un qui a tendance à charmer plutôt qu'à cogner. Et ça me le rend sympathique. Et là-dessus, il était assez lucide en disant, mais finalement, lucide, je sais pas, mais moi, je sais que je suis assez convaincu par ce qu'il dit quand il parle de ça. C'est que Peterson explique que finalement, pour lui, plutôt que d'avoir des discours sur le racisme qui, au bout du compte, ne convainquent que ceux qui sont déjà convaincus d'avance, lui, sa mission, elle est peut-être plus discrète, elle est peut-être moins revendicative de prime abord, etc. Mais elle consiste, et c'est considérable en soi, elle consiste à aller, se sachant noir et accompagné, bah, notamment par Ray Brown, enfin voilà, par des musiciens noirs aussi, à aller dans les plus grandes salles du monde, donner ses titres de noblesse, aidé en ça par Norman Granz, dont on aura peut-être l'occasion de dire un mot, mais donner ses lettres de noblesse à cette musique-là, et en partant du principe que c'est précisément en véhiculant ce choc artistique-là, en montrant cette musique portée avec ce degré d'excellence, d'exigence-là, qui précisément l'éloigne de toute forme de folklore. Enfin, c'est pas pour rien d'ailleurs que la plupart des très grands virtuoses classiques, etc., ont une immense admiration pour Peterson. On sent qu'on a véritablement un des très grands maîtres du clavier du XXe siècle. Et lui dit, bah voilà, moi, mon engagement politiquement, et y compris pour les noirs qui me regardent, etc., c'est d'être exemplaire, mais d'être exemplaire sans dire « regardez, je suis exemplaire », d'être exemplaire en se posant devant un piano qui fait sonner comme personne et qui, dans le monde entier, remplit les plus grandes et les plus belles salles de concert. Moi, c'est une attitude à laquelle je suis très sensible, et c'est, puisqu'on a parlé de ma nécessité en début de cet entretien, une attitude qui est assez proche de la mienne, je dois dire. Je sais que je suis assez éloigné du milieu militant, du handicap, etc., à peu près pour les mêmes raisons. Moi, j'ai l'impression que, plutôt que d'avoir des discours un peu ronflants, un peu clinquants sur ce que peut être la cécité, l'inclusion dans le milieu ordinaire, etc., on fait comprendre aux gens ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, en produisant quelque chose, en étant précisément sur scène, en étant aveugle, sans en faire des caisses, sans battre le tambour autour de ça. Voilà. Et donc, c'est quelque chose aussi qui contribue à expliquer cette très grande proximité que je me sens avec ce que révèle la musique de Peterson, qui, par ailleurs, est assez avare en discours. D'ailleurs, Peterson n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Enfin, il y a une autobiographie, mais c'est pas quelqu'un qui prononce des discours. C'est quelqu'un qui se contente d'être peut-être le meilleur artisan de son domaine et qui donc offre le produit de sa science à déguster aux gens que ça peut toucher. Voilà.
Je propose qu'on écoute le thème. Pour parce que si, il faut quand même qu'on écoute. Donc là, il est en trio avec son trio habituel, avec Cy Brown et
Tick Pen, effectivement,
à la batterie.
Voilà, sur Night Train, album enregistré en 1962, album qui est un des albums les plus connus.
Oui,
et pour cause, parce que c'est tout y est absolument magnifique, d'élégance, de finesse, voilà, album splendide.
Iconique, on va dire. C'est parti, Franck. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Voilà, on commence déjà à deviser en dehors du micro, donc si on continue comme ça, on va...
Je dis, on peut proposer aux auditeurs d'écouter Night Train intégralement, ils perdront pas leur temps. Enfin, c'est une musique qui vaut peut-être mieux que tout ce qu'on se raconte. Non, je devrais pas dire ça. Enfin bon, bref, vas-y.
J'ai juste une question, j'en profite tout de suite. Est-ce que tu vas présenter ton spectacle bientôt quelque...
Non, alors, il y a le plus simple pour tout ça, c'est évidemment de suivre le site romainvilliers.com sur lequel mon actualité est détaillée. Et là, ce qui va beaucoup nous occuper pendant les 2 mois et demi qui viennent, les 2 mois, le temps file, c'est la célébration du centenaire de Peterson, qui est donc né le 15 août 1925. Et pour fêter ce centenaire, on a lancé avec le contrebassiste qui est avec moi sur scène dans ce spectacle, et qui est un très vieux complice puisque ça fait maintenant un peu plus de 20 ans qu'on joue ensemble, on a lancé cette chaîne qui s'appelle MHBTO, donc les mêmes initiales que My Heart Belongs to Oscar, mais qui elle s'appelle My Hand Belongs to Oscar, et qui est une vidéo. Alors autant le dire tout de suite que les gens n'aient pas de désillusion en allant regarder. C'est quand même une chaîne qui est destinée à un public de musiciens, et de musiciens qui savent déjà de quoi on parle. Mais l'idée de cette chaîne, ça a été, depuis son lancement au début du mois de novembre, de faire paraître une vidéo par semaine dans laquelle on analyse un point particulier du style de Peterson. Donc, il y en a beaucoup, parce que maintenant on est à la 30e vidéo, et on essaye d'expliquer soit une manière harmonique particulière, une bricole qu'il aime bien. C'est des vidéos qui font entre 15 et 20 minutes chacune, et donc voilà. Et là, ça va beaucoup nous occuper, parce que le projet, c'était ce qu'on s'était fixé en lançant cette chaîne, c'était vraiment que ce soit une manière de célébrer son centenaire. Et donc on avait dit une vidéo par semaine jusqu'au 15 août. Le 15 août approche, et donc d'ici là il va y avoir la suite des vidéos, et puis il va y avoir, alors j'en dis pas beaucoup plus, mais ceux qui veulent peuvent suivre, il y a des pages sur les réseaux sociaux, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour être au courant. L'idée, c'est qu'il va quand même y avoir une certaine accélération. Il y a des concerts en hommage à Peterson, bien sûr, il y en a un notamment le 15 août à côté de Fontainebleau, dans un endroit qui m'est cher, qui n'a strictement rien à voir avec Peterson, mais qui est un endroit qui m'est cher. Voilà, on a quelques invités assez prestigieux aussi qui viennent nous dire le rôle qu'a joué Peterson dans leur vie. Et donc là, mon actualité autour de Peterson, elle est plus située autour de la célébration directe de ce centenaire qu'autour du spectacle, pour lequel il y a quelques dates en négociation mais qui sont pas encore tombées. Là encore, si on veut ne rien rater, le mieux c'est soit d'aller voir mon site romainvilliers.com. J'ai un réflexe d'aveugle. Quand un aveugle donne un nom comme ça, ils sont obligés d'épeler. À la radio, ça marche super bien. R-O-M-A-I-N-V-I-2-L-E-T. Donc, romainvilliers.com. Et si vous voulez même être sûr de ne rien rater, vous vous inscrivez à la newsletter du site, et à ce moment-là, vous serez au courant des prochaines dates. Il y a pas mal de choses qui se préparent pour 2025-2026. Mais comme les dates ne sont pas vraiment fixées, le plus simple est de suivre ça sur le site.
Très bien. Alors, page 52, tu dis un truc qui m'a fait marrer aussi, et qui est très vrai, enfin, qui est une catastrophe, c'est les Français sont la risée des jazzmen américains parce qu'ils ont un problème avec le rythme. Alors, il y a une vidéo d'un concert qui est absolument sidérant pour ça, c'est un concert d'Ahmad Jamal à Paris. À Vienne, je sais plus, enfin peu importe, mais un concert assez récent où il est en quartet avec Manolo Badrena aux percussions, et puis son section rythmique habituelle, et il commence à jouer Poinciana, évidemment, et là c'est une catastrophe parce que le public applaudit sur le premier et troisième temps et ça le plombe complètement. Il se retourne l'air complètement effaré, on leur dit mais qu'est-ce que c'est que cette incongruité, et pour, à la fin ils se marrent tous parce que c'est une catastrophe. Et il y a un concert identique, je pense, quelques jours ou quelques semaines après en Allemagne, où là, tout le monde frappe sur le deuxième et quatrième temps. Et c'est incroyable, d'où vient cette... Moi, j'ai toujours été...
Alors, d'où ça vient, je serais bien en peine de le dire. En tout cas, il y a quelque chose qui nous amuse énormément. C'est, je ne sais pas si c'était le cas, parce que je ne l'ai pas suffisamment dit, mais le spectacle évolue quand même aussi d'une fois sur l'autre. Alors, il y a des choses qui sont très arrêtées. Il y a un texte qui est figé, mais malgré tout, ça reste aussi vivant que la musique dont il est question dans ce spectacle. Donc, il y a des choses qui bougent, et notamment, je ne sais pas si c'était le cas le soir où tu es venu, mais il se trouve qu'on finit le spectacle en jouant un blues, et puis la phrase que tu viens de citer, je la dis au public, et je dis, bah écoutez, voilà, ça tombe bien, vous avez un batteur sous la main, il va vous aider à vous mettre sur le 2 et le 4. Et puis, on joue un blues pour expliquer un peu comment on improvise, puisque là-dessus aussi, j'en parle un peu dans le livre, il y a un paquet de fantasmes et de malentendus autour de cette histoire de l'improvisation, depuis celui qui pense que c'est pas uniquement parce qu'on se connaît très bien et qu'on est un peu copains que la chose fonctionne, ceux qui pensent qu'il y a un truc carrément mystique où tout à coup on est connecté, tout ça, l'idée qu'il y ait une grille d'accord, qu'on habite tous ensemble au même tempo, c'est quelque chose qui dépasse bien souvent le profane. Et donc je parle un peu de ça dans le public, et avant d'en faire la démonstration avec ce blues, on met le public avec nous en leur disant, bah écoutez, maintenant vous allez faire ça, et donc vous allez battre sur 2 et 4. Pour ça, ça tombe bien, on a un batteur sous la main, il va vous aider. Donc là, évidemment, quand le batteur les met sur la bonne voie, il n'y a aucun problème. Sauf que ça, c'est l'avant-dernier morceau du spectacle. Et à la fin du spectacle, on rejoue un blues. Et puis les gens, portés par leur enthousiasme, touchant au demeurant et extrêmement sympathique. Enfin voilà, je le dis. Mais effectivement, généralement, on attaque le blues et ça ne rate jamais, ou presque. Les gens heureux de nous soutenir et de participer à notre ramdam se mettent à taper dans leurs mains sur le AL3. Donc généralement, on s'était même demandé si on n'avait pas envie d'en jouer pour de bon, genre que vraiment le batteur s'arrête, se lève et puis les recale, mais vraiment de manière un peu autoritaire sur le 2 et le 4, ce que là il fait de manière assez gentille avec un sourire. Mais donc c'est pas parce qu'on leur a expliqué une fois pendant le spectacle que 10 minutes après ils ne retombent pas dans ces ornières. Quant à savoir d'où ça vient, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas. Un goût pour les marches militaires.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je pense.
Oui, mais est-ce que ça suffit? Enfin, moi, je fais partie. Alors, ça nous emmènerait loin, même si les connotations attachées à l'antenne me pousseraient à raconter l'anecdote. Mais je suis un des derniers déserteurs français, puisque je fais partie de la dernière génération qui a été exemptée du service national. Donc voilà, on n'a quand même pas connu tant que ça de marche militaire. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment de là que ça vienne. Je ne sais pas pourquoi les Français battent sur le 1 et le 3, mais il y aurait une enquête à faire.
C'est bizarre parce qu'en plus, les bals populaires, tout ça, c'est plutôt sur des valses. Donc la valse a tendance quand même à swinger plus facilement, on va dire.
Bah oui, non, mais non, c'est très étonnant, assez inexplicable, et de là à savoir d'où ça vient, très franchement, je sais pas.
Napoléon, peut-être. Bon, on va écouter ce qu'on avait choisi, donc. You look good to me.
Alors, la version de 77, c'est ça, celle qui est avec les bassistes. Ouais, ouais. Super.
On dira quelques mois après.
Ouais.
très bel accord majeur pour finir. Donc ça, c'était avec deux contrebassistes, c'est ça ?
Alors ça, c'était avec deux contrebassistes, et c'est donc un morceau qui m'est particulièrement cher, parce que c'est vraiment, pour moi, par là que tout a commencé. J'étais pas né ce soir, si je ne me trompe pas, qui devait être un 21 juillet 77. Je suis un obsédé des dates. J'adore les dates.
Oui, oui, oui.
Voilà. On était à 3 jours de la mort de Nabokov, à quelques pas de là. On est à Montreux au festival. Peterson est là. Il y a Ray Brown, il y a NHOP, c'est-à-dire les deux contrebassistes avec lesquels Peterson a joué le plus souvent. Ray Brown pendant les 15 premières années de sa carrière, NHOP pendant quasiment toute la suite, même s'il y a eu quelques incursions ensuite avec, avec Ray Brown. Et vient cette idée qui se décide de ce qu'on m'en a raconté quasiment, pas sur le moment, mais presque, enfin l'idée de se dire que, puisqu'ils sont là tous les deux, ce serait intéressant d'avoir cette formule de trio étrange, qui consiste à avoir sur scène un trio, mais non pas le trio dont on a l'habitude, avec un piano, une contrebasse, et puis soit une guitare, soit une batterie, mais un piano et deux contrebassistes. Et c'est effectivement ce qui se passe pendant ce concert, où on a en plus, dans une certaine mesure aussi, un peu un conflit d'école, parce qu'on a le très virtuose, et peut-être même le plus virtuose qui soit en la personne d'NHOP, et on a Ray Brown avec ce son beaucoup plus rond, beaucoup plus posé. Et à mon avis, enfin moi je sais très clairement de quel côté penche la balance de mon cœur, elle va très nettement du côté de Ray Brown, que je trouve, effectivement il joue moins, mais pour moi il y a une telle inventivité, une telle rondeur dans le son, une telle manière de faire que ça swing à tout prix, que pour moi c'est Ray Brown qui emporte la mise. Mais en tout cas c'est très intéressant, parce que là, si vous écoutez très attentivement, alors ils ont un son en plus qui est très facile à distinguer l'un de l'autre. Il y a ce son de NHOP avec le chevalet qui est beaucoup moins haut, les cordes qui d'ailleurs lui permet de jouer aussi vite, avec les cordes qui sont plus proches de la touche de la contrebasse, et ce son qui est parfois assez proche d'un son d'une basse électrique, et puis le son qui est le son de Ray Brown beaucoup plus boisé. Donc quand on écoute les deux, on les reconnaît vraiment très bien, et Peterson est avec les deux. Et moi, ce morceau-là a vraiment une résonance particulière dans ma vie, parce que pour moi c'est vraiment par là que tout a commencé, puisque je venais de me mettre au jazz, et puis j'ai acheté complètement par hasard, à l'époque où on achetait encore des disques, ce disque de Peterson, tout simplement parce qu'il était en promo. Je me demande même, on n'était peut-être même pas encore passé à l'euro, il devait coûter 10 francs à l'époque, et j'ai dû me dire pour 10 francs je vais, j'ai mis 10 francs dans la machine, et puis je me suis dit, si ça se trouve, un peu comme au Bandit Manchot, je me suis dit, je tente la chance, si ça se trouve, je gagne. Effectivement, oui, j'ai gagné. Ça, c'est la deuxième plage du disque. Et j'ai écouté ce truc-là. J'ai été absolument subjugué, à la fois par la facilité de cette mélodie, qui est une mélodie qui bizarrement est pas devenue un standard. Il y a quasiment que Peterson qui joue ça. Il y a une petite anecdote rigolote, c'est qu'elle a été composée par le dentiste de Ray Brown, figurez-vous. Ray Brown allait chez un dentiste, je crois que c'est dans la ville de Milwaukee. Dans la ville de Milwaukee, il y avait un dentiste qui adorait le jazz, qui était trompettiste à 16 heures, et qui aimait tellement le milieu du jazz que tout le monde se le refilait. Je sais que Gillespie est allé chez lui aussi. Enfin voilà, il disait, si t'as un problème avec tes dents, il adore les jazzman, il nous fait pas payer, allez-y quoi. Et donc Ray Brown se retrouve la bouche ouverte sur le fauteuil du dentiste, qui au-dessus de ça, évidemment est très honoré parce qu'il adore cette musique, d'avoir l'immense Ray Brown sur son fauteuil, et puis qui lui dit, j'ai composé un petit truc, tout ça, récemment. Il lui chante ce truc-là, et Ray Brown se dit, mais ça, c'est une mélodie qui est faite pour Oscar. Et effectivement, Oscar l'a fait rentrer dans son répertoire en 1964 sur We Get Request, et elle restera vraiment quasiment comme une de ses signatures. Il y en a des dizaines, voire des quinzaines de versions sur disque. sans compter toutes celles qu'il a proposées en concert. Et voilà. Et donc tout ça, vient d'une carie bien soignée.
Mais ça ressemble aussi à la chanson Les ronds dans l'eau.
Alors exactement, ça ressemble en fait. Il y a un enregistrement sur un album enregistré au Concertgebouw d'Amsterdam en 65 où Peterson en parle. Peterson dit, on dirait une mélodie de Bach. Il y a effectivement et probablement pour moi qui était, pour tout dire, assez hermétique au jazz jusqu'à ce que j'ai 18 ou 19 ans. J'avais absolument tout pour grandir en connaissant le jazz, notamment parce que mon frère avait pour meilleurs copains deux personnes que tous les gens qui s'intéressent au jazz aujourd'hui connaissent. Les deux meilleurs copains de mon frère quand il avait 15 ans n'étaient autres que Thomas de Pourquery d'une part et Sylvain Riflet d'autre part. Donc, et ces gens-là qui eux ne juraient que par le jazz, etc. Moi, à l'époque, j'étudiais le piano classique. Je comprenais rien à leurs histoires. Ils venaient à la maison de temps en temps, d'ailleurs, et Sylvain et Thomas, ils me disaient, mais improvise avec nous. Tu vas voir, improviser, c'est pas difficile. Tu fais ce que tu veux, est-ce que tu peux nous accompagner? Moi, à l'époque, je jouais sagement mon Chopin et mon clavier bien tempéré, que j'ai absolument pas renié d'ailleurs, hein, pour lequel, enfin voilà, ça continue à faire tout à fait partie des musiques qui me sont chères. Mais voilà, j'étais très très éloigné de tout ça, et je pense que c'est pas totalement par hasard si la jonction et mon entrée dans le monde du jazz s'est faite avec You Look Good To Me, parce que Peterson en parle donc en présentant cette mélodie comme une mélodie de Bach, parce que effectivement, quand on écoute, on a ces basses qui descendent avec donc cet accord de Do majeur pour commencer. Alors, je ne sais pas combien de spécialistes comptent au nombre des innombrables auditeurs de cette émission, donc je ne sais pas très bien dans quelle mesure je peux aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, on a une progression harmonique qui est une progression harmonique qui a été très employée par le classique, avec des accords qui au départ sont très peu chargés, dans lequel on a des accords qui ressemblent, enfin voilà, ça pourrait très bien être une mélodie classique. Et donc face à ces harmonies qui moi me dépaysaient pas tant que ça pour moi qui venais de la musique classique, ben, j'entends quelque chose qui me bouleverse à ce moment-là, qui est ce swing inénarrable, absolument dingue, cette énergie, cette manière de faire rebondir tout ça, cette liberté, ce son de piano de dingue, mais qui vient s'insérer dans ce cadre-là, dans ce cadre d'une harmonie très classique avec, comme le disait Yves à la fin du disque, voilà, des accords majeurs renversés comme auraient pu le faire les compositeurs classiques les jours où ils n'ont pas envie de beaucoup se fouler, enfin voilà, on est sur une mélodie extrêmement basique, et je suis subjugué par la manière dont Peterson habite cette mélodie, et ça a été le pour moi le début du voyage.
Alors, il faut quand même dire que l'expérience du piano avec deux contrebasses, ça avait été fait un peu avant, avec Martial Solal. C'était avec Gilbert Revers, je crois, et Guy Petersen, il me semble. Je crois que c'est en 62 ou 3, ou un truc comme ça. Martial Solal qui a été aussi... pareil, un type très... Enfin, moi, j'ai toujours adoré Martial. Je voulais l'interviewer, il a toujours refusé. Bon, c'est un grand regret pour moi de ne pas l'avoir eu dans mon émission. Qui en a aussi soufflé plus d'un aux États-Unis, enfin, qui était pareil, un virtuose hors pair. Alors, il y a aussi autre chose, page 61, qui était intéressant, qui était de dire que pour être jazzman, comme le disait Chet ou Kef, il fallait connaître les paroles des chansons. Alors, il y en a qui disent qu'on s'en fout, d'autres qui disent pas du tout, d'autres qui disent qu'on s'en fout. Alors, je prends quand même l'exemple sur Bill. Bill, il connaissait pas du tout les paroles des chansons, et ça l'empêchait pas de les interpréter de manière absolument sublime.
Alors, c'est vrai. Enfin, voilà, moi, je pense que le fait de connaître les paroles, déjà, ça donne quelque chose, parce que les paroles, quand on les chante... Le jazz est fait, c'est un de ces charmes dont notamment le regretté Jacques Reda parlait très bien, etc. Il y a une part d'indétermination rythmique. Et cette indétermination rythmique, pour moi, elle a à voir avec quelque chose qui ressemble avec, puisqu'on en est un tout petit peu à parler de littérature, avec ce que Céline appelait par exemple le style émotif, à savoir cette manière de parler qui impose une espèce de rythme qui transmet l'émotion. Et je trouve qu'il y a, pour transmettre cette émotion, dans le fait de connaître les paroles, quelque chose qui fait que si vous écoutez un chanteur, il va retarder infimement une syllabe ou quelque chose comme ça. Et en retardant infimement cette syllabe, c'est quelque chose qui ne peut pas apparaître sur une partition, parce que malgré tout, on peut se dire que voilà, qu'on est dans deux croches, qu'on est dans tout ça, mais il y a dans la prononciation, pour moi, ça a à voir avec le rythme. Après, je vais être très honnête avec toi, je suis très loin de connaître les paroles de tous les standards que je joue. Cela dit, j'aime beaucoup les paroles et j'aime aussi beaucoup les paroles des standards que je connais parce que je trouve qu'il y a une espèce de trivialité poétique au meilleur sens du terme que je trouve assez merveilleuse. Il est d'ailleurs pas rare, et je rebondis assez souvent dans le spectacle sur des paroles de chansons. Je trouve qu'on a notamment dans tous ces standards de Broadway, etc., une espèce d'efficacité en deux phrases. Souvent, on trouve des petites choses comme ça qui, quand on leur joint une mélodie, je suis assez sensible aux paroles. Les gens d'ailleurs s'en sont probablement aperçus. Je suis un bavard impénitent. J'adore les mots. La musique m'en repose. Elle en repose mon entourage aussi. mais voilà. Non, je comprends ça aussi. Je comprends qu'on ait cet attachement aux paroles. Je comprends qu'on puisse s'en passer. Moi, dans la mesure du possible, j'aime bien savoir de quoi ça parle.
Tu connais la version de Bill où il chante, c'est la seule fois où il chante Santa Claus coming in town.
Oui, absolument, qui traîne sur YouTube.
Oui. Alors, on va écouter le Carnegie Hall de 1949. Alors, il y a trois titres en 1949. C'est Fine and Dandy, I Only Have Eyes for You et Carnegie Blues. On peut peut-être
Je trouve ça. On peut peut-être raconter ou rappeler aux auditeurs qui le sauraient déjà ce qui se passe. Peterson, ça a eu une relative incidence dans sa carrière, né à Montréal. Il naît à Montréal, alors dans le quartier anglophone, hein, donc cela dit, Peterson parle français. Tu parlais de Martial Solal il y a peu de temps. Il y a d'ailleurs une interview qui là encore se trouve sur YouTube où il est interviewé par Pierre Bouteiller et où on lui demande qui sont les grands virtuoses français, et avec cet accent délicieux qui est le sien, où on retrouve un peu d'accent québécois et d'accent d'anglophone, oui. Peterson répond en français, mais en France aussi vous avez de très grands virtuoses, notamment Martial Solal. Donc il y a un hommage rendu par Peterson à Martial Solal. Bref, je m'éloigne de mon sujet. Peterson né à Montréal, et Peterson étant né à Montréal, ça va être un véritable enjeu pour lui que de conquérir les États-Unis. Celui qui va être l'artisan de cette conquête des États-Unis, ça va être Norman Grant, qui un jour, en voyage, va à Montréal, entend Peterson à la radio, le jeune Peterson qui avait à l'époque 23 ans, qui avait déjà quand même une belle carrière au Canada, mais carrière qui restait quand même une carrière nationale, qui n'avait pas encore pris sa dimension internationale. Norman Grant entend Peterson, il est subjugué par ce qu'il entend, et il lui dit, écoute, moi j'organise The Jazz at the Philharmonic, donc Jazz at the Philharmonic, c'est l'occasion pour le public d'entendre tous les meilleurs jazzmen du moment sur des très grandes salles de concert. L'idée de Norman Grant, c'était de rassembler tous les jazzmen sur une scène pour que le public entende à la fois les meilleurs et puis que ça permette aussi aux jazzmen d'être payés convenablement parce qu'ils jouaient devant des très grandes salles. Enfin bon, bref, il y a un enjeu de production. Tout le le monde y trouvait plus ou moins son compte, Norman Granz invite Peterson, et donc Peterson se retrouve en 1949 sur la scène du Carnegie Hall. C'est la première fois de sa vie qu'il joue à New York, donc on imagine quand même, il fait quand même son entrée par la grande porte, si je puis dire. Et là où la chose est folle, c'est que ce soir-là, si mes souvenirs sont bons, il y a en première partie Ella Fitzgerald, il y a Buddy Rich, il y a Dizzy Gillespie, je crois qu'il y a Roy Eldridge, il y a Ray Brown. Enfin bon, on imagine ce que ça peut avoir d'intimidant pour un pianiste qui joue pour la première fois à New York et à qui on dit « tu vas partager la scène avec tous ces gens-là » que Peterson, donc, écoutait et connaissait de réputation, puis qu'il avait croisé pour certains d'entre eux quand il passait au Canada. Mais Peterson se retrouve à jouer le même soir que ces gens-là sur la scène du Carnegie Hall avec tout le monde, et Norman Granz lui dit « t'as besoin d'un contrebassiste, tu vas jouer avec Ray Brown ». C'est la première fois où Peterson joue avec Ray Brown, et il a trois morceaux pour convaincre. Et donc ça, c'est les trois premiers morceaux que Peterson joue aux États-Unis. Fort heureusement, on en a gardé une preuve sur disque, et vous allez faire attention à plusieurs choses. La première, c'est que d'abord, pour ceux d'entre vous qui connaissent Peterson, vous allez voir qu'on reconnaît le style de Peterson. Et ensuite, il y a quelque chose que je trouve merveilleux, c'est qu'on entend le frémissement à la fois de la salle, qui est littéralement sidérée par ce qui se passe sous les doigts de Peterson, et puis aussi des autres musiciens qui sont là, qui voient débarquer ce type que certains voient là pour la première fois de leur vie, et puis qui se disent « Mais d'où sort ce mutant, quoi ?» Et on les entend, vous les entendez grogner autour. Voilà. Donc, on en redit un petit mot après. Et ça, c'est donc tout simplement quasiment la figure obligée du musicien de jazz. En 1949, donc avec une influence bebop, mais on retrouve aussi tout ce que sont les marques de fabrique de Peterson. C'est tout simplement un blues en si bémol, inventé pour l'occasion, Carnegie Blues, première rencontre de Ray Brown et d'Oscar Peterson.
Eh bien, c'est parti. Thank you.
Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, oui, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'écouter, c'est qu'il y a énormément de choses à dire, évidemment, mais il y a aussi quelque chose qui apparaît pas forcément en première lecture, c'est le fait qu'il joue avec quand même des niveaux de volume très variés, c'est qu'il peut être très très pianissimo, tout en étant parfaitement lisible, ou mettre la gomme quand il faut, quoi. Tous ne le font pas forcément. Par exemple, Bud Powell joue assez égal tout le temps.
Il y a une très très grande dynamique dans le jeu de Peterson. Il y a vraiment un sens de l'accent. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a un sens de l'accent à la fois d'une phrase à l'autre, avec des passages, comme tu viens de le dire, dont certains sont très piano, voire pianissimo. D'autres qui sont beaucoup plus fort. Ce qui continue à me bluffer aussi, c'est que très souvent, notamment quand il joue des phrases avec ce débit de virtuose insensé là, la phrase entière est piano et il y a juste deux ou trois notes qui permettent vraiment de qui marquent les contours de la phrase et qui font quasiment une phrase cachée à l'intérieur de la phrase et qui sont accentuées, mais vraiment de manière tonitruante, sans lourdeur, hein, toujours avec cette élégance qui est celle de Peterson dans la vie, quand il parle, quand il joue, quand tout ça, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment un côté gentleman anglais. Et il y a ça aussi dans sa manière d'accentuer, en fait. Il y a vraiment ce jeu d'une extrême délicatesse et où de temps en temps une note éclate, mais vraiment comme pistolet au milieu du concert, quoi. Mais pistolet lanceur de patates.
Oui, oui. Mais tu l'as vu sur scène, Oscar ?
Alors, je l'ai vu sur scène. Je l'ai vu sur scène et c'était un peu décevant. Enfin, c'était pas décevant, mais. C'est le genre de concert dont on sort un peu mélancolique, parce que Peterson a eu des ennuis de santé. Il a eu un AVC assez grave, qui fait qu'il a été hémiplégique en 93. Il a reconquis, bon an, mal an, un bout de sa main gauche, etc. Et il a voulu retourner sur scène. Il est retourné sur scène. Moi, c'est à peu près à cette époque-là que je l'ai découvert. Quand j'ai su qu'on pouvait le voir sur scène, je me suis évidemment précipité. Donc je l'ai vu, si mes souvenirs sont bons, à deux reprises. Deux ou trois, je sais plus. Mais en tout cas, à chaque fois, avec ce petit pincement au cœur de se dire, celui à qui on pouvait reprocher effectivement d'être peut-être moins innovant que d'autres musiciens qui ont passé un temps fou à se renouveler au fur et à mesure de leur carrière, etc. Moi, j'avais tendance à dire, bah, c'est pas grave, on peut pardonner à Peterson de s'être peut-être un peu moins renouvelé que les autres, parce qu'il y a une espèce de, justement, quelque chose qui pourrait ressembler à l'éternel retour de la jubilation. Il y avait pour moi, tout au long de sa carrière, une espèce de jubilation intacte, comme ça, et qui faisait que, bah certes, il jouait en 1950 comme en 1990, mais c'est pas grave, parce que l'émotion qui transmet cette joie, ce sourire qui transparaît à travers chacun de ses enregistrements était intacte, et on pouvait d'autant moins aller lui reprocher que c'était avec un niveau d'exigence pianistique qui faisait que c'était toujours impeccable. Et on a donc du mal, quand on aime quelqu'un précisément parce qu'il a toujours présenté une musique impeccable, à aller le voir sur scène.
Diminuer,
ou il colle des pains, ou précisément ce dynamisme dont on vient de parler est encore présent, mais de manière moins ébouriffante. Dans les phrases, il y a des trous. Le jeu, dont la régularité était vraiment frappante, il y avait vraiment une maîtrise du phrasé inégalée. Bah, là, pour des raisons qui sont des raisons médicales et par ailleurs tout à fait compréhensibles, hein, mais on retrouvait pas ça. Et donc, on était un peu gênés. J'étais d'ailleurs un peu gêné. Et puis, récemment, un disque est sorti. C'est un des derniers disques de Peterson qui est sorti, qui a été enregistré à cette période-là, en 94. Et sa fille, qui avait 2 ans à l'époque et qui est très engagée dans la commémoration de son centenaire, signe les notes de la pochette. Et elle dit ça. Alors, elle en parle évidemment avec cet amour filial qui est le sien, en disant bah oui, mon père a voulu remonter sur scène après cette attaque, et ça témoigne d'une volonté de fou, etc. Bon, ce qui est pas faux, mais ce qu'il est à mon avis moins que l'argument qu'elle donne, où elle dit bah effectivement oui, c'est sûr que elle-même le reconnaît d'ailleurs, c'est plus le Peterson qu'on a pu connaître, il est quand même un peu diminué, mais ça permet aux nouvelles générations de l'avoir vu sur scène et d'avoir été en présence de ce qu'il était. Et en lisant ces notes de pochette, ben, je me suis dit, ça m'a presque consolé avec 20 ans de retard de ce que j'avais vu, je me suis dit, mais finalement, elle a raison. Ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, c'est pas le côté, certes un peu décevant de la prestation, c'est ça, c'est ce type qui a un tel engagement vis-à-vis de ce qu'il représente, vis-à-vis de cette musique-là, qui se dit, j'offre ma présence aux gens qui sont là. Alors, les mauvaises langues peuvent se dire, peut-être parce qu'il avait les impôts à payer. Je pense pas, parce que je pense que il était très bien rangé à l'abri des soucis à ce moment-là, et j'ai pas l'impression que ce soit ça. Je pense que c'est aussi la position de quelqu'un qui a passé sa vie entière à tourner et qui a qui continue à tourner, qui continue à recevoir cet hommage-là. Et en tout cas, pour le jeune musicien que j'étais, même si musicalement c'était pas le Peterson que j'ai le plus aimé, que j'ai vu, bah effectivement j'étais quand même extrêmement ému d'être dans la salle sur la scène où se produisait celui qui avait eu cette importance là dans ma vie.
Moi j'ai eu la chance de le voir avant qu'il soit malade, donc avec toutes ses capacités, on va dire. Alors il y a une chose que, alors là ça va être un échange de bons procédés. Page 65, tu dis à propos du jazz, en disant « Ne craignez rien, l'aube viendra, le bout du tunnel, vous profiterez de mes lumières, je me sens une irrésistible envie de vous embraser. » Alors, je te donne un de mes jeux de mots pourris, hein, comme ça tu pourras le réutiliser pour ton spectacle, c'est « Qui trop embrase, mal éteint. »
Oui, voilà. Oui, absolument. Absolument. Et trop embrasé, c'est le problème des natures ardentes, effectivement. C'est bien pour ça d'ailleurs que je suis un peu intarissable quand on me demande de parler de Peterson. Effectivement, oui, et il y aurait tellement à dire. Je sens que là, j'ai à la fois été trop bavard et qu'en sortant du studio, je vais me dire, mais quel dommage que je n'ai pas parlé de ceci et de cela. Voilà, c'est la loi de l'exercice.
C'est toujours comme ça.
Je sais bien.
Choisir, c'est renoncer, comme on dit.
Voilà.
Alors, il y a aussi un truc qui m'a fait bien rire, et je terminerai là-dessus. Enfin, je terminerai provisoirement parce que j'ai encore un autre truc à dire. Parce que moi aussi, je peux être très bavard, hein, mais là, j'ai trouvé mon maître. Pourquoi le jazz? Parce que son nom qui se termine par 2 Z, il fait au moins 2 fois plus de bien que Pierre Boulez. Ça m'a beaucoup plu.
Alors, c'est un peu de la méchanceté pure et gratuite.
Oui, j'ai adoré.
Mais ça mange pas de pain, d'abord.
J'ai adoré.
Ça mange pas de pain. Non, et puis, bon, je sais qu'il y a les boulets olâtres et tout ça. Voilà, moi, j'ai pas d'hostilité particulière, mais je ne peux qu'avoir une certaine animosité pour celui qui dit que Bill Evans, c'est de la musique d'ascenseur. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, c'est l'ascenseur qui nous mène au firmament. Enfin, c'est l'ascenseur qui nous emmène au 7e ciel, et dans ce cas-là, c'est quand même l'ascenseur où on a peut-être envie de rester un peu plus longtemps que dans une salle de concert où on joue du Boulez.
Moi, je pense que... En plus, il est revenu un tout petit peu sur ses positions bien plus tard, mais il s'en est pas vanté en disant qu'il n'était pas tellement compétent pour pouvoir en parler, ce qui me paraissait plus honnête. Voilà.
Oui, et puis après, il y a tout un débat, mais qui là encore nous emmènerait très loin aussi. Mais il y a toute une histoire de musique du présent, le crédit qu'on accorde à la présence, à la présence dans l'instant par rapport à la partition, par rapport à tout ça. Moi, il se trouve que c'est aussi une des choses qui m'a fasciné dans cette histoire-là. Et là, vous m'excuserez de verser pour une courte phrase qui ne comptera probablement pas plus de 14 virgules dans la métaphysique, mais il y a aussi ça qui m'intéresse dans le jazz, et c'est probablement aussi pour ça que la rencontre a été si fulgurante, c'est que c'est évidemment aussi la musique du présent, celle qui se détourne de son rapport à l'histoire, etc., pour être qu'est-ce qu'on a à sauver quand on cherche à habiter le présent. Et c'est aussi cette porte-là qu'a ouverte Peterson pour moi, et c'est probablement quelque chose qui intéressait moins Boulez, qui voulait sans doute inscrire son nom dans l'histoire avec un grand H.
Oui, on sent chez Peterson, peut-être plus que chez les autres, enfin, il y en a d'autres, mais une sorte d'urgence une sorte d'urgence générale.
Il y a une urgence et il y a une jubilation du moment. Oui. Il y a vraiment un carpe diem, hein, et d'ailleurs qui marche dans tous les sens, parce qu'on pourrait se dire aussi, mais pourquoi ne pas peut-être s'être retiré, essayer d'avoir fait un seul album vraiment décisif, etc. Non, Peterson fait les albums à la chaîne. J'allais dire, il les fait à la scène. Que ma langue avait fourché, mais c'est vrai aussi, il y en a un certain nombre. Peterson est un ogre, un boulimique, et un boulimique de la présence, et de cette manière d'habiter le présent de manière torrentielle et toujours jubilatoire. Et moi, je suis très sensible à ça, mais j'y suis très sensible, c'est même pas une question de goût, je pense que c'est une question de nature. En fait, pour moi, il y a le fameux débat des philosophes de l'Antiquité entre Démocrite et Héraclite. Vous savez, ce sont les deux philosophes qui, à lucidité égale, il y en a un qui lui dit, voyant ce que je vois du monde, j'ai envie d'en pleurer. Ça, c'est Héraclite. Et Démocrite lui répond, moi, à degré de lucidité égale, voyant ce que je vois du monde, j'ai envie d'en rire. Pour moi, c'est une manière de reparler de l'histoire entre Peterson et Bill Evans. Je suis, mais parce que ma nature est ainsi faite, je suis du côté de Peterson, du côté de Démocrite, du côté de cet éclat de rire porté avec cette intensité-là, ce besoin de jubiler dans l'instant dont l'œuvre entière de Peterson me paraît porter la trace.
Et en même temps, ce que tu dis est totalement étonnant, j'y pense en t'écoutant, que chacun a joué finalement sa musique en fonction de lui, mais c'est évidemment, le jazz c'est une histoire d'individu, mais on le ressent dans la musique. Bill est quelqu'un de profondément destroy. Enfin, bon.
Ah oui, il y a le torturé, introspectif, angoissé, dépressif,
suicidaire,
héroïnomane. Et puis il y a de l'autre côté, c'est quelque chose que j'ai rajouté récemment dans ce spectacle, parce que je trouvais que c'était. Il se trouve que j'en ai parlé avec un copain qui n'était pas plus jazzman que ça, et ça l'a intrigué de voir qui suscitait une telle fougue et un tel emballement quand j'en parlais. Donc il a eu le réflexe qu'ont tous nos contemporains. Il s'est précipité sur YouTube pour regarder Peterson. Puis il m'a dit, mais il y a vraiment la chose qui me frappe, c'est son sourire en fait. Il y a vraiment, que ce soit quand il est en interview, quand il répond, quand il est en train de jouer, etc., il y a une espèce de sourire constant, mais qui est quelque chose qui tient vraiment à sa, pour le coup, je pense que c'est même pas un choix, c'est même pas de l'ordre du travail philosophique, c'est vraiment quelque chose qui renvoie à sa nature profonde. Et moi, c'est quelque chose qui résonne en moi, et ce sourire-là que moi j'ai pas pu voir de mes propres yeux, et pour cause, quand mon pote m'a dit ça, je me suis dit évidemment Peterson est celui dont la musique sourit en permanence. J'ai eu l'impression qu'il avait confirmation par ses yeux de ce que j'avais même pas eu besoin de me formuler, tellement sa musique me l'avait présenté comme une évidence.
Exactement,
fait.
C'est exactement ça. Juste avant d'écouter une curiosité qu'on va écouter dans un instant, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé chez Oscar, c'est que chez lui, il y avait plein d'instruments électroniques, et hormis un disque où il utilise le Fender, je crois que c'est avec Bézi, il me semble.
Oui, absolument.
Il l'a jamais utilisé, alors qu'il était super intéressé par l'électronique, les Moog, les synthés, qu'il en avait plein. Enfin, c'était très bizarre, il l'a jamais utilisé, hormis voilà, cette exception du Fender Rhodes, une fois.
Alors, oui, il a fait quelques incursions dans des choses bizarres. Il y a un album où il joue du clavecin.
Ah oui.
Album étonnant que malheureusement j'ai pas. Je crois qu'il a pas été redistribué parce que c'est vraiment une curiosité. Mais sinon, non, je sais même pas si lui s'en est expliqué. Après. Moi, j'aurais tendance à me dire, de son point de vue, je me souviens de la question qu'on posait à Jarrett quand il a arrêté sa période électronique en disant bah, « Tout ça, ce sont des jouets. Donc, les instruments électroniques, ce sont des jouets. Voilà. » Mais Jarrett, quand il a abandonné ça pour revenir au piano, dit « Je reviens au piano parce que j'ai pas besoin d'électronique, de quoi que ce soit. Je veux être au plus près du feu. » Je pense que Peterson aurait pu dire ça à peu près de la même manière. Il y a un côté très intéressant dans les sons que ça produit, etc. Mais probablement être au plus près de la mécanique, etc. Et puis surtout, quand on a... Parce qu'il y a ça, on parle... Ce qui frappe chez Peterson, c'est bien sûr cette virtuosité de dingue. Mais en réalité... Des pianistes qui jouent aussi vite que Peterson, il y en a. Des pianistes qui jouent avec cette science de l'instrument, cette science du toucher, ce que les pianistes appellent le pianisme, généralement, il y en a vraiment pas beaucoup. Des gens qui maîtrisent le son du piano avec cette finesse et cette délicatesse là, il y en a pas beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'il est resté cantonné à son instrument de prédilection, celui qu'il appelait son favorite instrument. Je pense que c'est précisément parce qu'il avait un rapport de proximité tellement exceptionnel avec le piano que voilà, les jouer à la maison, mais sur scène, non.
Bon, on va écouter cette bizarrerie et puis on en parle après. C'est parti, Franck.
It is only a paper moon sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. If you believed in me. If you believed in me.
Ah, Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4 et DAB+, car nous sommes passés à la modernité. D'ailleurs, le DAB+ va peut-être pas forcément faire Follorès sans flanc. Bon, enfin, c'est un autre débat. Alors, il est accompagné par qui, là? Est-ce qu'on entend un guitariste
Je suis quasiment sûr que ça doit être Herbelis.
Herbelis, ouais.
Herbelis, puisqu'il y a chez... Alors, d'abord, on dit il est accompagné, mais il faut quand même le dire. Il s'accompagne d'abord lui-même, puisque là, c'est Peterson qui chante. C'est Peterson qui chante avec une voix qui est très, très proche de celle de Nat King Cole.
C'est sidérant, même.
C'est absolument sidérant. Nat King Cole... auquel Peterson rendra hommage toute sa vie et dira ce qu'il lui doit. Ça a été, vraiment été une influence considérable pour lui. Et ça, je crois que c'était un projet de Norman Granz qui, non content d'être le producteur de Peterson, était aussi son ami, son conseiller artistique, etc., et qui lui a proposé de faire un disque où Peterson chante. Et là, effectivement, on a l'impression d'entendre le trio de Nat King Cole. Peterson récidivera pas très souvent, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de touchant. Et puis, je trouve que c'est touchant aussi parce que on entend, toujours la même chose, en fait. On entend à la fois cette douceur, ce sourire, et puis il y a aussi autre chose qui est très amusant, c'est que Peterson, quand il chante, accompagne nettement moins que d'habitude, parce que c'est drôle. Alors il le fait là encore, comme il a une maîtrise absolue du toucher, il le fait sans être envahissant et tout, mais on a tendance, notamment quand on est un apprenti jazzman et qu'on nous dit vous accompagnez un soliste, on dit ouais, jouez pas trop, laissez la place au soliste. Peterson joue énormément quand il accompagne. Il a carrément des phrases, des contre-chants quasiment constants. Si vous écoutez un de ses albums, qui est quasiment un album de variété, le fameux Ella et Louis, hein, où c'est lui avec, là encore, Herbelis, je crois que c'est Buddy Rich à la batterie et Ray Brown à la contrebasse. Vous écoutez Peterson, il n'y a pas une phrase du chanteur qui n'a pas son contre-chant au piano. Il y en a vraiment absolument partout. Là, quand Peterson s'accompagne lui-même au chant, eh ben, il fait ce qu'on attend le plus souvent d'un pianiste, à savoir qu'il ne joue que dans les trous, alors que quand c'est les autres, il joue y compris derrière. Il le fait là encore avec finesse et élégance. Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et c'est un album plus anecdotique qu'autre chose, mais que je trouve touchant.
Ouais, mais quand même, je trouve qu'il est assez... assez ouais, moi, je trouve... Moi, je sais que c'est, il m'a toujours bien touché cet album et j'aime beaucoup. Le temps passe vite. Il va y avoir la prochaine émission qui est après nous. Je proposerai qu'on écoute un extrait du We Get Request de 1964 avec Ray Brown et Ed Thigpen. On pourrait peut-être écouter My One and Only Love, par exemple. Qui...
Alors absolument, très, très bon choix. Très bon choix, c'est une ballade. C'est une ballade dans laquelle... dans laquelle vous allez voir que Peterson, évidemment, ne se prive pas de temps en temps d'envoyer une de ses fusées, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut écouter la subtilité du toucher là-dessus, et puis le placement rythmique aussi, le tempo lui permettant de le faire. Vous allez voir que de temps en temps, dans un temps, Peterson met 8 notes, il y a des moments où il en met 12, il y a une espèce de manière de survoler le tempo aussi, et puis toujours avec cette délicatesse que vous allez voir dès l'introduction en piano solo, qui est absolument magnifique. Et puis ensuite arrive le trio, et là le trio c'est prodigieux, c'est comme tout le reste. Enfin voilà, je me tais pour lui laisser la place. En tout cas, je ne peux que vous encourager à écouter cet album et tous les autres, bien sûr.
On rappelle également que Ray Brown était le mari d'Ella Fitzgerald.
Alors, il l'était plus à cette époque-là.
Ah bon? Parce
que, non, ils ont divorcé. Ils ont divorcé au début des années 50. Cela dit, je me suis toujours demandé, on en parlait il y a quelques instants, du fameux album avec Ella et Louis. Il y a un très bel album aussi qui s'appelle bizarrement Ella and Oscar, alors que Ray Brown est à la contrebasse. Ils sont tous les trois, il n'y a pas de batteur, mais ils sont tous les trois. Et je me suis toujours dit qu'il devait y avoir une ambiance particulière et, de ce que j'ai cru comprendre, plutôt sympathique entre ces gens-là, puisque Ray Brown était avec son ancienne femme, mais avec qui je crois qu'ils ont toujours gardé de très bons rapports, et ils ont continué à faire des disques après, etc. Et puis, Oscar Peterson n'était évidemment pas la femme de Ray Brown, mais quand on voit la cadence frénétique des tournées dans lesquelles ils ont été embarqués pendant une quinzaine d'années, ils avaient une vie qui était quasiment une vie conjugale, hein, parce qu'ils étaient sur scène 150 soirs par an dans le monde entier. Et donc c'est là encore quasiment des histoires de vie commune, et vie commune qui se télescopait en studio, notamment pour l'enregistrement de cet album et de quelques autres.
Oui, je finis juste là-dessus. Je pensais que tu allais venir avec ton contrebassiste et du coup, ça aurait été bien de l'interroger, mais bon, voilà.
Alors, mon contrebassiste serait volontiers venu. C'était prévu jusqu'à ce matin. Oui, je te l'ai même pas dit en arrivant. Il a la fameuse angine de la fin du mois de juin.
Ah oui.
Donc il est cloué au fond de son lit et donc il m'a appelé ce matin en étant absolument désolé. Mon contrebassiste Olivier Michel, que je vais nommer quand même s'il est pas là, même si je trouve qu'il m'a fait un coup de salaud en dents pas. Coup de salaud que je lui pardonne très bien et qui a même pas l'air d'être une excuse de mauvais élève, parce qu'il se faisait une joie de venir. Mais vraiment, ce matin, il m'a appelé avec une voix qui était tout sauf radiogénique. Donc, voilà, il a décliné l'invitation pour ce coup-là.
Et on va aussi donner le nom quand même du batteur.
Le batteur, c'est Antoine Coussigné. Antoine Coussigné, qui n'a pas pu venir non plus, mais qui est un très bon partenaire de jeu et qui a été embarqué dans un paquet de projets avec qui je suis ravi de partager la scène. Et puis, puisqu'on en est à parler des gens avec qui je partage la scène, je remercie une fois de plus les éditions Le Dilettante pour le livre, et puis je remercie aussi celui qui nous file vraiment un très précieux coup de main dans tout ça, qui s'appelle Julien Moglia et qui est à la mise en scène de ce spectacle et dont on a eu grand besoin, parce que être musicien de jazz, c'est une chose, mais comme chacun sait, les musiciens de jazz sont un peu autistes, ils ont le nez dans leurs instruments, ils parlent un peu quand ils en ont envie. Faire que les trois musiciens d'un trio se tournent vers le public pour leur adresser la parole, ça n'a pas été une mince affaire, et ça a été la tâche de Julien Moglia, que je remercie infiniment pour la peine qu'il s'est donnée.
Voilà, c'est dit, on écoute. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire 89.4, donc on termine sur quelques accords de Jean-Sébastien Bach, Jésus que ma joie demeure. Merci Romain d'être venu nous parler de cette passion que nous partageons d'une manière générale sur le jazz, sur Oscar, d'une manière extrêmement enthousiaste. Et puis donc pour nous, rendez-vous dans 15 jours pour un été avec Miles Davis, où je vous ai préparé et concocté des choses qu'on connaît pas ou peu, ou en tout cas qui viennent de réapparaître, et ce qui est tout à fait intéressant. Et donc si vous voulez en savoir plus sur notre invité, vous allez sur son site. Je remettrai toutes les informations sur ma page Facebook, ainsi que la liste des morceaux que nous avons diffusés. Et merci Romain.
Eh ben merci Yves pour l'invitation, pour le plaisir. Et puis tu viens de dire que ma joie demeure et que la joie d'Oscar demeure aussi. Alors voilà. Merci beaucoup.
Merci Fraterni Swing, et rendez-vous dans 15 jours. Bye bye.
Ils aiment les fleurs fanées, les fleurs séchées, les immortels et les pensées. Et ils marchent dans la boue des souvenirs, dans la boue des regrets. Ils se traînent à grand peine dans les marécages du passé.